Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour avec une pause qui est un petit peu plus longue que les autres, mais on est correct avec ça quand même. On est avec Bernard Tremblay. Salut Bernard.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien et vous?
Oui.
Ben oui, vous êtes justement là avec mes chroniqueurs, mes collègues Enzo et Marc-Antoine.
Et bonjour Bernard.
Bonjour, fait plaisir, Bernard. Bonjour.
Plaisir est partagé.
Et c'est ça, donc vous êtes président directeur général de la Fédération des cégeps et justement, là, vous m'avez dit que vous avez fait un petit communiqué hier par rapport à la semaine de la prévention du suicide, donc je vous lance là-dessus.
Oui, d'abord merci de m'inviter puis de me donner l'occasion de parler donc de cette semaine de la prévention du suicide, hein, et je pense que on le sait tous, c'est un phénomène inquiétant, c'est un phénomène dont on parle peut-être pas assez. Hein. C'est pour ça que des fois, une semaine thématique de ce type-là est une bonne occasion de prendre la mesure que, bon, vous savez, au Québec, même si, selon les dernières données, il y a une certaine stabilité là, par rapport au taux de suicide, il reste quand même qu'on est une des sociétés les plus affligées par le phénomène. Alors, il faut se donner l'occasion, un, de se rappeler évidemment qu'il faut y porter justement une attention. Deux, se rappeler aussi que la population jeune, la population étudiante, on le sait, vit avec un taux d'anxiété qui est élevé. Vous savez, les dernières données là aussi nous témoignent quand même que c'est plus du tiers des étudiants. Je pense aux étudiants collégiaux, mais je pense pas que les étudiants universitaires soient dans un autre contexte. On parle de plus du tiers qui vivent avec un niveau d'anxiété élevé, anxiété liée aux finances, anxiété liée à l'environnement, au contexte mondial, à d'autres phénomènes, à anxiété personnelle aussi. Alors donc, il faut être capable donc de le nommer, il faut être capable aussi d'agir. Puis c'est pour ça que nous, on a tenu à le rappeler hier qu'il y avait des actions qui étaient mises en place dans les cégeps, puis assurément du côté universitaire, pour faire en sorte de soutenir notre population étudiante puis essayer, dans le fond, de mieux l'accompagner dans une société moderne qui est pas facile à vivre.
Ben oui, ben clairement, là. Puis non, moi non plus, je pense pas que toutes les gens qui nous écoutent de la communauté universitaire diraient qu'ils sont exemptés de stress. C'est ça, j'avais Marc-Antoine là, qui voulait vous poser une petite question, donc je lui lance la perche.
Oui. Comme vous mentionnez dans le communiqué,
oui.
C'est beaucoup les adolescents et
les jeunes adultes,
oui, effectivement, ouais. Qui sont plus affectés par une situation de détresse psychologique. Pourquoi cette tranche d'âge a tendance à être plus à risque de se retrouver dans une telle situation?
C'est une très bonne question. Écoutez, je pense que quand on parle de jeunes adultes, là, ils sont confrontés avec quand même, je le disais, là, un contexte qui est exigeant d'abord, combiner les études, la vie sociale, la vie personnelle, trouver sa place, se découvrir, se connaître, savoir ce qu'on veut. On regarde le futur des fois avec un peu d'angoisse en se disant, bon, est-ce que je vais pouvoir me payer ce que je veux me payer? Est-ce que je vais être capable de vivre dans cette société où on me parle beaucoup des problèmes, évidemment, et peut-être peu des choses positives? Il y a tous les enjeux des relations interpersonnelles. Hein, quand on débute la vie adulte qui prend beaucoup de place puis qui est exigeant aussi. Alors, je nomme certains éléments, mais c'est clairement pas exhaustif. Mais je pense que ça vient un peu, je dirais, aussi de cette phase de transition là que l'on vit à l'adolescence puis au moment d'être un jeune adulte, tout en n'ayant peut-être pas toujours les outils ou le sentiment qu'on a le plein contrôle sur notre vie. Hein, tu sais, parce que, bon, les études, c'est conditionné avec des règles qui ne nous appartiennent pas. Le travail, ben c'est pas le travail qu'on veut faire dans la vie nécessairement, mais c'est un travail qui nous permet de suffire à nos besoins au moment où on est aux études. Alors c'est peut-être pas le travail qui me stimule le plus. Alors, il y a une lourdeur qui peut être associée à ça. Il y a, encore une fois, le stress qui est un stress de vie moderne. Alors, tout ça fait en sorte, je pense, que dans l'évolution là, d'une personne, cet âge-là de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, est une période difficile. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un soutien adéquat à ce moment-là. Et les maisons d'enseignement sont bien placées pour être un lieu pour accompagner des gens qui ont des difficultés personnelles. Moi, vous savez, j'ai 57 ans. J'en ai vécu des difficultés. J'ai eu accès à des programmes d'aide au fil de ma carrière. Aujourd'hui, ben, j'ai passé à travers un certain nombre d'épreuves qui m'aident. Mais quand on est plus jeune dans notre parcours, ben, cette expérience-là, on ne l'a pas toujours. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir compter sur des ressources. Alors nous, dans le réseau collégial, on a mis en place, par exemple, des formations pour des sentinelles. Donc, oui, il y a des services psychosociaux. Puis moi, je n'insisterai jamais assez sur le fait qu'il faut que les gens aient voir des spécialistes. Il y en a dans les universités, il y en a dans les cégeps, il y en a dans le réseau de la santé et services sociaux. Si on n'est pas bien, il faut être capable de le dire. Mais on le sait que souvent, la meilleure façon de réagir à des difficultés, c'est d'avoir des gens autour de soi qui les perçoivent et puis qui nous aident, puis avec qui on a une proximité personnelle. Alors, c'est pour ça qu'un réseau de sentinelles formés, qui ne sont pas des spécialistes de la santé, mais qui au moins ont eu une formation pour les amener à détecter des signes et faire des interventions qui peuvent aider au moins dans un premier temps la personne donc, qui vit des difficultés. Ça me semble une avenue intéressante.
Mais effectivement, merci Bernard. Je me présente à Enzo, c'est Enzo qui a pris la parole, un autre chroniqueur.
Oui,
enchanté.
Ça fait plaisir.
Oui, moi aussi. Et comme vous disiez par rapport à la jeunesse, le fait que y ait cette sensation d'angoisse et problème existentiel qui peut monter, c'est aussi parce qu'on est dans un système et dans une situation sociale qui est compliquée. On parlait des problèmes d'emploi, de la crise environnementale, de l'inflation. On est, je crois, une des premières générations qui va être plus, qui risque d'être plus pauvre que celle de ses parents. Enfin, on est dans une situation pour les nouvelles générations qui est une situation complexe. C'est dur de se projeter, ça c'est sûr, donc c'est un des facteurs effectivement, et vous en parliez un petit peu, mais il y a aussi le rapport social. Moi c'est un sujet qui est très important pour moi, mais le rapport social qui est hyper important, et malheureusement on est dans une société où on voit ce rapport social, et j'espère que c'est que temporaire, hein, que c'est qu'une phase, mais on voit ce rapport social en fait disparaître, diminuer de plus en plus. Il y a eu un rapport récemment qui a été fait dans plusieurs pays, puis il y a eu deux grands rapports qui ont été faits au Québec et en France sur une épidémie silencieuse qu'ils appellent, donc c'est l'épidémie de la solitude chez les jeunes au Québec. C'est les 18-25 ans sont extrêmement touchés par cette épidémie de solitude. Il y a près de la moitié, 49% des jeunes de 18 à 24 ans ont avoué éprouver la solitude, parfois souvent, et parfois une lourde solitude qui était... Et c'était le cas à peine chez 20% des personnes de plus de 70 ans. Donc c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la solitude chez les personnes plus âgées, mais on voit qu'elle s'intensifie. Chez les personnes de plus en plus jeunes. Effectivement, comme vous dites, il faut démystifier les soins psychologiques et oser aller vers ces professionnels-là, mais aussi reconnecter avec du rapport social. Je trouve que aussi c'est tout aussi bon d'avoir quelqu'un important à qui parler, d'avoir un référent. Et moi, c'était ça aussi que je voulais parler avec vous. Comment on peut dans l'école recréer du lien social, du rapport social, comment faire en sorte que les enfants entre eux voient. Je sais qu'il y a une formation, moi je l'ai lu pour préparer cette entrevue, la formation et le réseau Sentinelle, mais si vous pouvez donner des exemples, comment on peut se réapproprier ce rapport social-là et comment les enfants peuvent voir ces signes avant-couvert et que faire face à ces signes.
C'est vraiment une grande question que vous me posez là. Je me sens un peu... comment dire, intimidé de
répondre. Non, je suis désolé, c'est que c'est une question qui me touche beaucoup.
Mais non,
ici.
Mais oui, oui. Non, mais j'ai le goût de vous répondre tout simplement.
On peut prendre
notre
temps.
Disant, oui, puis en fait, j'ai le goût de vous dire, c'est sûr qu'on vit un peu je me permettrais de prendre l'expression, même si elle peut paraître un peu grosse, mais on vit un peu encore le choc post-traumatique de la pandémie.
Ah, hein?
Il y a quelque chose qui a changé de façon probablement assez permanente, puis il y a des choses aussi qui sont temporaires, Dieu merci, puis qui vont revenir à une certaine normalité, mais on dirait que le point d'équilibre, on ne l'a pas encore atteint. Parce qu'en même temps, ça a été aussi une occasion de se propulser au niveau technologique. Hein. Moi, écoutez, je vous raconte là une anecdote tout bête, là, mais moi, au moment de la pandémie, rappelons-nous, ça fait pas 100 ans, ça fait à peine 3-4 ans, on n'utilisait pas encore la visioconférence de façon vraiment régulière. Alors qu'aujourd'hui, on ne penserait pas faire une réunion avec un appel conférence. Là, aujourd'hui, c'est nécessairement à l'écran avec le visuel. Bon, alors, c'est clair qu'il y a un danger, vous le dites, on le voit, il y a un danger d'isolement par le fait que nos moyens technologiques nous permettent de rester chez nous et d'être en contact avec le monde sans avoir le contact personnel. Mais on sait que le contact personnel, c'est autre chose. Ça sera toujours un contact de plus grande qualité et qu'il est nécessaire à l'humain. Mais donc, quand je vous dis ça, moi, je pense qu'il faut que les maisons d'enseignement, et c'est à tous les niveaux, hein, primaire, secondaire, cégep, université, qu'on mise sur l'importance de ce contact humain-là, qu'on mette en place des activités, des occasions de présence. Cette présence-là, des fois, elle n'est pas une présence de qualité, là, dans le sens où elle se limite à être en contact avec des gens autour de nous avec qui on n'aura pas nécessairement, a priori, un grand contact. Mais malgré tout, moi, je pense que ça a une valeur, partager un espace ensemble. Puis c'est le premier niveau et ça sera par la suite, après ça, un deuxième niveau qui sera un niveau plus justement d'un vrai contact. Et je pense qu'à ce moment-là, donc, on va, comment dire, rebâtir des liens entre les individus. Dit autrement, je pense que les maisons d'enseignement doivent être des facteurs pour forcer cette présence-là des gens en créant des activités, des occasions, des événements qui font en sorte que les gens ont le goût de se déplacer et d'être dans les lieux physiques et de peut-être voir plus d'intérêt donc que les simples moyens réseaux sociaux et moyens technologiques. Là. À ce stade-ci, je vous dirais, ça serait un peu ma réponse en étant conscient que c'est un phénomène social, hein, donc ça nous dépasse beaucoup là, cet enjeu-là. Là. Mais on peut, en résumé, on peut comme établissement d'enseignement, on peut aider à redonner de la valeur au contact humain.
Et complètement. Ben, merci. Merci pour votre réponse, Bernard. Et une toute petite question, et après je laisserai la parole à mon collègue, mais aussi s'il y a des étudiants, des élèves, des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, s'il y en a qui en discutant justement avec leurs camarades, s'ils peuvent apercevoir ou ressentir des formes de dépression, de détresse, des signes avant-coureurs à cet acte terrible, rappeler aussi aux jeunes d'aller voir des professionnels liés à ça.
Ouais. Et aussi les lignes téléphoniques. Hein, je veux dire, il y a des lignes qui sont facilement, évidemment, qu'on peut facilement trouver, des lignes d'écoute, des lignes pour la prévention du suicide. Alors, il ne faut pas hésiter non plus à prendre contact avec ces ressources-là qui sont peut-être plus facilement accessibles justement parce qu'ils sont disponibles au bout du téléphone.
Oui, ben exactement. Là, je sais pas. Là, je sors un petit peu du cadre, là, encore une fois, là, qu'on nous a donné pour cette entrevue-là, mais je sais pas si vous êtes familier avec le défi Ski ta vie.
Non, malheureusement.
Donc, en fait, là, c'est peut-être un petit appel. Je fais une petite parenthèse pour nos auditeurs. Là, on a eu quelqu'un qui est venu là, nous parler justement du défi Ski ta vie, qui est vraiment qui met au cœur trois causes qui ont pour le même objectif, en fait, la vie, qui est comme prolonger, améliorer la qualité de vie par l'avancement des soins de santé, et que ce soit en solidifiant les bases pour la vie future des jeunes générations, en comblant leur manque de ressources, ou en aidant financièrement les personnes atteintes du cancer, afin qu'elles puissent se concentrer à se battre pour leur vie. En fait, c'est juste un événement qui regroupe plein de personnes, qui fait un 48 heures de ski. Donc, c'est vraiment une occasion pour les gens de pouvoir se rassembler, faire une activité, justement, de peut-être recréer des liens sociaux, tout en profitant, justement, d'une belle journée en ski et de se relier entre personnes. Je trouvais que ça allait bien, justement, qu'on parlait de manque de connexion et que... Je trouvais que justement, c'est le défi-là qui remet la vie justement de l'avant, justement, de recréer un petit peu peut-être ces liens sociaux justement qu'on a si difficulté à refaire. Oui,
ouais, tout à fait.
Et comme je vois que le temps file, là, j'ai pas envie de vous retenir plus longtemps. Est-ce que vous aviez justement peut-être un rappel des ressources disponibles pour nos auditeurs ou juste simplement un petit mot pour tout le monde qui nous écoute?
Oui, ben en fait, encore une fois, moi, je pense que on a tous, peut-être le message de la fin, ce serait on a tous un petit devoir d'être à l'affût de signes de déprime, de dépression chez des gens qui sont nos camarades, qui sont proches de nous. Et des fois, une petite phrase, une petite incitation à consulter, ça peut faire toute la différence et donc d'avoir une espèce de regard bienveillant sur les gens qui sont autour de nous, ben moi je pense que c'est un peu le message cette semaine qu'on devrait garder à l'esprit. Alors écoutez, je souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de réflexion sur cet enjeu de la prévention du suicide et puis une bonne poursuite évidemment de la session. Bon courage tout le monde.
Ben merci bien, puis merci aux personnes du réseau Sentinelle qui font ce magnifique travail. Et puis voilà, encore une fois, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, faites attention.
Les ressources.
Partagez les ressources, toujours faire attention des gens qui sont auprès de nous, prenons soin de nous, puis ne jamais hésiter à faire appel à des personnes de ressources si jamais on a dans le doute ou si jamais on voit ce genre de signes avant-coureurs. Prenez soin de vous.
Donc, sur ces belles paroles, j'envoie tout le monde en pause publicitaire avec un petit peu de Clopelgag, un de mes artistes préférés québécois.
Ouais,
et je vous laisse pour cette petite pause musicale. Merci Bernard.
Merci Bernard.
Passez une bonne
journée. Merci à vous trois. Merci à tout le monde. Au revoir.
Au revoir.